comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Lettre 86. La maréchale de à la marquise de Merteuil. Mon Dieu, qu'est-ce donc que j'apprends, ma chère madame ? Est-il possible que ce petit Prévan fasse de pareilles abominations ? Et encore, vis-à-vis de vous ? À quoi on est exposé ? On ne sera donc plus en sûreté chez soi ? En vérité, ces événements-là consolent d'être vieille. Mais de quoi je me consolerai jamais, c'est d'avoir été en partie cause de ce que vous avez reçu un pareil monstre chez vous. Je vous promets bien que si ce qu'on m'en a dit est vrai, il ne remettra plus les pieds chez moi. C'est le pari que tous les honnêtes gens prendront avec lui, s'ils font ce qu'ils doivent. On m'a dit que vous étiez trouvé bien mal, et je suis inquiète de votre santé. Donnez-moi, je vous prie, de vos chères nouvelles, ou faites-m'en donner par une de vos femmes, si vous ne le pouvez pas vous-même. Je ne vous demande qu'un mot pour me tranquilliser. Je serais accourue chez vous ce matin, sans mes bains que mon docteur ne me permet pas d'interrompre. Et il faut que j'aille cet après-midi à Versailles, toujours pour l'affaire de mon neveu. Adieu, ma chère madame. Comptez pour la vie sur ma sincère amitié. Lettre 87. La marquise de Merteuil à madame de Volanges. Je vous écris de mon lit, ma chère bonne amie. L'événement le plus désagréable et le plus impossible à prévoir m'a rendu malade de saisissement et de chagrin. Ce n'est pas qu'assurément, j'ai rien à me reprocher. Mais il est toujours si pénible pour une femme honnête et qui conserve la modestie convenable à son sexe de fixer sur elle l'attention publique que je donnerais tout au monde pour avoir pu éviter cette malheureuse aventure et que je ne sais encore si je ne prendrais pas le parti d'aller à la campagne, attendre qu'elle soit oubliée. Voici ce dont il s'agit. J'ai rencontré chez la maréchale de un monsieur de Prévan que vous connaissez sûrement de nom et que je ne connaissais pas autrement. Mais en le trouvant dans cette maison, j'étais bien autorisée, ce me semble, à le croire bonne compagnie. Il est assez bien fait de sa personne et m'a paru ne pas manquer d'esprit. Le hasard et l'ennui du jeu me laissèrent seule de femme entre lui et l'évêque d'eux, tandis que tout le monde était occupé au lansquenet. Nous causâmes tous trois jusqu'au moment du souper. À table, une nouveauté dont on parla lui donna l'occasion d'offrir sa loge à la maréchale, qu'il accepta. Et il fut convenu que j'y aurais une place. C'était pour lundi dernier, aux Français. Comme la maréchale venait souper chez moi au sortir du spectacle, je proposai à ce monsieur de l'y accompagner, et il y vint. Le surlendemain, il me fit une visite qui se passa en propos d'usage, et sans qu'il eût du tout rien de marqué. Le lendemain, il vint me voir le matin, ce qui me parut bien un peu leste. Mais je crus qu'au lieu de lui faire sentir par ma façon de le recevoir, il valait mieux l'avertir par une politesse, que nous n'étions pas encore aussi intimement liés qu'il paraissait le croire. Pour cela, je lui envoyais, le jour même, une invitation bien sèche et bien cérémonieuse pour un souper que je donnais avant-hier. Je ne lui adressai pas la parole 4 fois dans toute la soirée, et lui, de son côté, se retira aussitôt sa partie finie. Vous conviendrez que jusque-là, rien n'a moins l'air de conduire à une aventure. On fit, après les parties, une macédoine qui nous mena jusqu'à près de 2 heures. Et enfin, je me mis au lit. Il y avait au moins une mortelle demi-heure que mes femmes étaient retirées quand j'entendis du bruit dans mon appartement. J'ouvris mon rideau avec beaucoup de frayeur et vis un homme entrer par la porte qui conduit à mon boudoir. Je jetai un cri perçant et je reconnus à la clarté de ma veilleuse ce monsieur de Prévan qui, avec une effronterie inconcevable, me dit de ne pas m'alarmer, qu'il allait m'éclaircir le mystère de sa conduite et qu'il me suppliait de ne faire aucun bruit. En parlant ainsi, il allumait une bougie. J'étais saisie au point que je ne pouvais parler. Son air aisé et tranquille me pétrifiait, je crois, encore davantage. Mais il n'eût pas dit 2 mots que je vis quel était ce prétendu mystère. Et ma seule réponse fut, comme vous pouvez le croire, de me pendre à ma sonnette. Par un bonheur incroyable, tous les gens de l'office avaient veillé chez une de mes femmes et n'étaient pas encore couchés. Ma femme de chambre, qui, en venant chez moi, m'entendit parler avec beaucoup de chaleur, fut effrayée et appela tout le monde. Vous jugez quel scandale. Mais Jean était furieux. Je vis le moment où mon valet de chambre tuait Prévan. J'avoue que, pour l'instant, je fus fort aise de me voir en force. En y réfléchissant aujourd'hui, j'aimerais mieux qu'il ne fût venu que ma femme de chambre. Elle aurait suffi, et j'aurais peut-être évité cet éclat qui m'afflige. Au lieu de cela, le tumulte a réveillé les voisins, les gens ont parlé, et c'est depuis hier la nouvelle de tout Paris. Monsieur de Prévan est en prison par ordre du commandant de son corps, qui a eu l'honnêteté de passer chez moi pour me faire des excuses, m'a-t-il dit. Cette prison va encore augmenter le bruit. Mais je n'ai jamais pu obtenir que cela fût autrement. La ville et la cour se sont fait écrire à ma porte, que j'ai fermée à tout le monde. Le peu de personnes que j'ai vues m'a dit qu'on me rendrait justice et que l'indignation publique était au comble contre Monsieur de Prévan. Assurément, il le mérite bien, mais cela n'ôte pas le désagrément de cette aventure. De plus, cet homme a sûrement quelques amis, et ses amis doivent être méchants. Qui sait? Qui peut savoir ce qu'ils inventeront pour me nuire? Mon Dieu, qu'une jeune femme est malheureuse! Elle n'a rien fait encore quand elle s'est mise à l'abri de la médisance. Il faut qu'elle en impose même à la calomnie. Mandez-moi, je vous prie, ce que vous auriez fait, ce que vous feriez à ma place. Enfin, tout ce que vous pensez. C'est toujours de vous que j'ai reçu les consolations les plus douces et les avis les plus sages. C'est de vous aussi que j'aime le mieux à en recevoir. Adieu, ma chère et bonne amie. Vous connaissez les sentiments qui m'attachent à vous pour jamais. J'embrasse votre aimable fille. Lettre 88. Cécile Volanges au Vicomte de Valmont. Malgré tout le plaisir que j'ai, monsieur, à recevoir les lettres de monsieur le chevalier Danceny, et quoique je ne désire pas moins que lui que nous puissions nous voir encore, sans qu'on puisse nous en empêcher, je n'ai pas osé cependant faire ce que vous me proposez. Premièrement, c'est trop dangereux. Cette clé que vous voulez que je mette à la place de l'autre lui ressemble assez bien à la vérité. Mais pourtant, il ne laisse pas d'y avoir encore de la différence. Et maman regarde à tout et s'aperçoit de tout. De plus, quoiqu'on ne s'en soit pas encore servi depuis que nous sommes ici, il ne faut qu'un malheur, et si on s'en apercevait, je serais perdu pour toujours. Et puis, il me semble aussi que ce serait bien mal. Faire comme cela un double de clé, c'est bien fort. Il est vrai que c'est vous qui auriez la bonté de vous en charger. Mais malgré cela, si on le savait, je n'en porterais pas moins le blâme et la faute, puisque ce serait pour moi que vous l'auriez faite. Enfin, j'ai voulu essayer deux fois de la prendre, et certainement cela serait bien facile, si c'était tout autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours mise à trembler, et je n'en ai jamais eu le courage. Je crois donc qu'il vaut mieux rester comme nous sommes. Si vous avez toujours la bonté d'être aussi complaisant que jusqu'ici, vous trouverez toujours bien le moyen de me remettre une lettre. Même pour la dernière, sans le malheur qui a voulu que vous vous retourniez tout de suite dans un certain moment, nous aurions eu bien aisé. Je sens bien que vous ne pouvez pas, comme moi, ne songer qu'à ça. Mais j'aime mieux avoir plus de patience et ne pas tant risquer. Je suis sûre que M. Danceny dirait comme moi. Car toutes les fois qu'il voulait quelque chose qui me faisait trop de peine, il consentait toujours que cela ne fût pas. Je vous remettrai, monsieur, en même temps que cette lettre, la vôtre, celle de M. Danceny, et votre clé. Je n'en suis pas moins reconnaissante de toutes vos bontés, et je vous prie bien de me les continuer. Il est vrai que je suis bien malheureuse, et que sans vous, je le serais encore bien davantage. Mais, après tout, c'est ma mère, il faut bien prendre patience. Et pourvu que M. Danceny m'aime toujours et que vous ne m'abandonniez pas, il viendra peut-être un temps plus heureux. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec bien de la reconnaissance, votre très humble et très obéissante servante. Lettre 89. Le vicomte de Valmont au chevalier Danceny. Si vos affaires ne vont pas toujours aussi vite que vous le voudriez, mon ami, ce n'est pas tout à fait à moi qu'il faut vous en prendre. J'ai ici plus d'un obstacle à vaincre. La vigilance et la sévérité de Madame de Volanges ne sont pas les seules. Votre jeune amie m'en oppose aussi quelques-uns. Soit froideur ou timidité, elle ne fait pas toujours ce que je lui conseille. Et je crois cependant savoir mieux qu'elle ce qu'il faut faire. J'ai trouvé un moyen simple, commode et sûr de lui remettre vos lettres, et même de faciliter, par la suite, les entrevues que vous désirez. Mais je n'ai pas pu la décider à s'en servir. J'en suis d'autant plus affligée que je n'en vois pas d'autre pour vous rapprocher d'elle, et que, même pour votre correspondance, je crains sans cesse de nous compromettre tous trois. Or, vous jugez que je ne veux ni courir ce risque-là, ni vous y exposer l'un et l'autre. Je serais pourtant vraiment peinée que le peu de confiance de votre petite amie m'empêchât de vous être utile. Peut-être feriez-vous bien de lui en écrire. Voyez ce que vous voulez faire, c'est à vous seul à décider. Car ce n'est pas assez de servir ses amis, il faut encore les servir à leur manière. Ce pourrait être aussi une façon de plus de vous assurer de ses sentiments pour vous. Car la femme qui garde une volonté à elle n'aime pas autant qu'elle le dit. Ce n'est pas que je soupçonne votre maîtresse d'inconstance, mais elle est bien jeune. Elle a grand-peur de sa maman, qui, comme vous le savez, ne cherche qu'à vous nuire. Et peut-être serait-il dangereux de rester trop longtemps sans l'occuper de vous. N'allez pas cependant vous inquiéter à un certain point de ce que je vous dis là. Je n'ai dans le fond nulle raison de méfiance. C'est uniquement la sollicitude de l'amitié. Je ne vous écris pas plus longtemps parce que j'ai bien aussi quelques affaires pour mon compte. Je ne suis pas aussi avancée que vous, mais j'aime autant, et cela console. Et quand je ne réussirai pas pour moi, si je parviens à vous être utile, je trouverai que j'ai bien employé mon temps. Adieu, mon ami. Off you go to school where you could learn the rules there, right? Lettre 90. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Je désire beaucoup, monsieur, que cette lettre ne vous fasse aucune peine, ou si elle doit vous en causer, qu'au moins elle puisse être adoucie par celle que j'éprouve en vous l'écrivant. Vous devez me connaître assez à présent pour être bien sûr que ma volonté n'est pas de vous affliger. Mais vous, sans doute, vous ne voudriez pas non plus me plonger dans un désespoir éternel. Je vous conjure donc, au nom de l'amitié tendre que je vous ai promise, au nom même des sentiments peut-être plus vifs, mais à coup sûr pas plus sincères que vous avez pour moi, ne nous voyons plus. Partez. Et jusque-là, fuyons surtout ces entretiens particuliers et trop dangereux, où, par une inconcevable puissance, sans jamais parvenir à vous dire ce que je veux, je passe mon temps à écouter ce que je ne devrais pas entendre. Hier encore, quand vous vîntes me joindre dans le parc, j'avais bien pour unique objet de vous dire ce que je vous écris aujourd'hui. Et cependant, qu'ai-je fait? Que m'occuper de votre amour auquel jamais je ne dois répondre. De grâce, éloignez-vous de moi. Ne craignez pas que votre absence altère jamais mes sentiments pour vous. Comment parviendrai-je à les vaincre quand je n'ai plus le courage de les combattre? Vous le voyez, je vous dis tout. Je crains moins d'avouer ma faiblesse que d'y succomber. Mais cet empire que j'ai perdu sur mes sentiments, je le conserverai sur mes actions. Oui, je le conserverai. J'y suis résolu, fût-ce aux dépens de ma vie. Hélas, le temps n'est pas loin où je me croyais bien sûr de n'avoir jamais de pareil combat à soutenir. Je m'en félicitais. Je m'en glorifiais peut-être trop. Le ciel a puni, cruellement puni cet orgueil. Mais, plein de miséricorde, au moment même qu'il nous frappe, il m'avertit encore avant ma chute, et je serais doublement coupable si je continuais à manquer de prudence, déjà prévenu que je n'ai plus de force. Vous m'avez dit 100 fois que vous ne voudriez pas d'un bonheur acheté par mes larmes. Ne parlons plus de bonheur, mais laissez-moi reprendre quelque tranquillité. En accordant ma demande, quel nouveau droit n'acquerrez-vous pas sur mon cœur? Et cela, fondé sur la vertu, je n'aurai point à m'en défendre. Combien je me plairais dans ma reconnaissance! Je vous devrais la douceur de goûter sans remords un sentiment délicieux. À présent, au contraire, effrayé de mes sentiments, de mes pensées, je crains également de m'occuper de vous et de moi. Votre idée même m'épouvante. Quand je ne peux la fuir, je la combats. Je ne l'éloigne pas, mais je la repousse. Ne vaut-il pas mieux pour tous deux faire cesser cet état de trouble et d'anxiété? Ô vous, dont l'âme toujours sensible, même au milieu de ses erreurs, est restée amie de la vertu, vous aurez égard à ma situation douloureuse, vous ne rejetterez pas ma prière. Un intérêt plus doux, mais non moins ces agitations violentes. Alors, respirant par vos bienfaits, je chérirai mon existence, et je dirai dans la joie de mon cœur, ce calme que je ressens, je le dois à mon ami. En vous soumettant à quelques privations légères, que je ne vous impose point, mais que je vous demande, croirez-vous donc acheter trop cher la fin de mes tourments? Ah, si pour vous rendre heureux, il ne fallait que consentir à être malheureuse, vous pouvez m'en croire, je n'hésiterai pas un moment. Mais devenir coupable? Non, mon ami, non, plutôt mourir 1000 fois. Déjà assailli par la honte, à la veille des remords, je redoute et les autres et moi-même. Je rougis dans le cercle et frémis dans la solitude. Je n'ai plus qu'une vie de douleur. Je n'aurai de tranquillité que par votre consentement. Mes résolutions les plus louables ne suffisent pas pour me rassurer. J'ai formé celle-ci dès hier, et cependant j'ai passé la nuit dans les larmes. Voyez votre amie, celle que vous aimez, confuse et suppliante. Vous demandez le repos et l'innocence. Ah, Dieu, sans vous, eût-elle jamais été réduite à cette humiliante demande? Je ne vous reproche rien. Je sens trop par moi-même combien il est difficile de résister à un sentiment impérieux. Une plainte n'est pas un murmure. Faites par générosité ce que je fais par devoir. Et à tous les sentiments que vous m'avez inspirés, je joindrai celui d'une éternelle reconnaissance. Adieu, adieu, monsieur. Why do we fall so hard, so easy and not try? To get back to who we were before the whole sky fell in.
Well, maybe I know why. Maybe I know why. Why do we flirt with danger when a safe place is close by? Seeing the warning signs and still maybe I know why. Maybe I know why. Maybe I know why. Shaking the long way home, facing the dark alone, shaking in the unknown.
Lettre 91. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Consterné par votre lettre, j'ignore encore, madame, comment je pourrais y répondre. Sans doute, s'il faut choisir entre votre malheur et le mien, c'est à moi à me sacrifier, et je ne balance pas. Mais de si grands intérêts méritent bien, ce me semble, d'être avant tout discutés et éclaircis. Et comment y parvenir, si nous ne devons plus nous parler ni nous voir? Quoi, tandis que les sentiments les plus doux nous unissent, une vaine terreur suffira pour nous séparer, peut-être sans retour. En vain l'amitié tendre, l'ardent amour réclameront leurs droits. Leurs voix ne seront point entendues. Et pourquoi? Quel est donc ce danger pressant qui vous menace? Ah, croyez-moi, de pareilles craintes, et si légèrement conçues, sont déjà, ce me semble, d'assez puissants motifs de sécurité. Permettez-moi de vous le dire, je retrouve ici la trace des impressions défavorables qu'on vous a données sur moi. On ne tremble point auprès de l'homme qu'on estime. On n'éloigne pas, surtout, celui qu'on a jugé digne de quelque amitié. C'est l'homme dangereux qu'on redoute et qu'on fuit. Cependant, qui fut jamais plus respectueux et plus soumis que moi? Déjà, vous le voyez, je m'observe dans mon langage, et je ne me permets plus ces noms si doux, si chers à mon cœur, et qu'il ne cesse de vous donner en secret. Ce n'est plus l'amant fidèle et malheureux, recevant les conseils et les consolations d'une amie tendre et sensible. C'est l'accusé devant son juge, l'esclave devant son maître. Ces nouveaux titres imposent sans doute de nouveaux devoirs. Je m'engage à les remplir tous. Écoutez-moi, et si vous me condamnez, j'y souscris et je pars. Je promets davantage. Préférez-vous ce despotisme qui juge sans entendre? Vous sentez-vous le courage d'être injuste? Ordonnez, et j'obéis encore. Mais ce jugement, ou cet ordre, que je l'entende de votre bouche. Et pourquoi, m'allez-vous dire à votre tour? Ah, que si vous faites cette question, vous connaissez peu l'amour et mon cœur. N'est-ce donc rien que de vous voir encore une fois? Et quand vous porterez le désespoir dans mon âme, peut-être un regard consolateur l'empêchera d'y succomber. Enfin, s'il me faut renoncer à l'amour, à l'amitié, pour qui seul j'existe, au moins vous verrez votre ouvrage, et votre pitié me restera. Cette faveur légère, quand même je ne la mériterai pas, je me soumets, ce me semble, à la payer assez cher pour espérer de l'obtenir. Quoi, vous allez m'éloigner de vous? Vous consentez donc à ce que nous devenions étrangers l'un à l'autre? Que dis-je? Vous le désirez. Et tandis que vous m'assurez que mon absence n'altérera point vos sentiments, vous ne pressez mon départ que pour travailler plus facilement à les détruire. Déjà, vous me parlez de les remplacer par de la reconnaissance. Ainsi, le sentiment qu'obtiendrait de vous un inconnu pour le plus léger service, votre ennemi même en cessant de vous nuire, voilà ce que vous m'offrez. Et vous voulez que mon cœur s'en contente? Interrogez le vôtre. Si votre amant, si votre ami, venait un jour vous parler de leur reconnaissance, ne leur diriez-vous pas avec indignation « Retirez-vous, vous êtes des ingrats. » Je m'arrête et réclame votre indulgence. Pardonnez l'expression d'une douleur que vous faites naître. Elle ne nuira point à ma soumission parfaite. Mais je vous en conjure à mon tour. Au nom de ces sentiments si doux que vous-même vous réclamez, ne refusez pas de m'entendre. Et par pitié, du moins pour le trouble mortel où vous m'avez plongé, n'en éloignez pas le moment. Adieu, madame.
You kept the light, you kept the light shining, you kept the light shining on the dark and dirty corners of my grimy life. And what a life, I had a life under covers in the bed I shared with others who said they were my friend but kept my dirty laundry flying in plain sight. Oh, what a life, I had a house, I had a big bad house. I had a house with views that wrapped around the Polaroids I posed within my house. It was a house with only people who believed they could persuade me. I had money meant for spending on the lies, the grim and grimy lies. Oh, what a life, oh, what a life. You took me out, you took me out of this. You took me out of this bizarre world I inhabited with hangers on who tried to bleed me dry, to feed the dark and dirty habits undercover of the night. You turned the light on in my head and starved the ones who fed on fear and fright of life in the clear blue light of life. Yeah. Shoulder that I cry on.